Donc, on étudie les thèmes bibliques. C'est la suite d'un cours de l'année passée. Puis, cette session-ci, on a vu à date le thème des nations et la semaine passée, le thème de la grâce. Cette semaine, on va voir le thème des vêtements. Je ne sais pas si vous aimez la mode. Moi, je ne suis pas un passionné, là, mais. Mais le thème des vêtements dans la Bible, c'est un thème qui revient très souvent. C'est un thème qui est très riche, symbolique. Les vêtements, lorsqu'il est question spécifiquement des vêtements, ils ne sont jamais neutres. C'est sûr que tous les gens portaient des vêtements, là, mais quand la Bible en parle, il y a un symbolisme qui est là. Les vêtements ils ont souvent une signification spirituelle, morale ou même prophétique. Donc, on va regarder différents aspects. Le premier, qui est assez évident, c'est les vêtements servent à couvrir la nudité. Ça, c'est un thème qui revient dès le début dans Genèse. À l'origine, la nudité n'était pas un problème. Dans Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas honte d'être nus? Oui, il n'y avait pas de péché. Adam et Ève étaient sans péché. Ils étaient innocents. Mais c'est quoi le lien entre qu'ils étaient sans péché et qu'ils n'avaient pas honte d'être nus, selon vous? C'est un peu mystérieux, là, mais. Oui, aucune mauvaise pensée. Aucun jugement envers l'autre. Leur condition a changé à la chute lorsqu'ils ont péché. On va lire Genèse 3. Quelqu'un pourrait nous lire ça. Genèse 3, 7 à 10. Donc, tout à coup, ils se sont cachés. Là, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et pourquoi ils se sont cachés? Oui, ils avaient honte de quoi? Ils avaient honte d'être nus. Il y a comme un parallèle qui est fait ici. Ils avaient honte, tout à coup, ils ont réalisé, oh, je suis nu. Mais en même temps, ils avaient péché. Donc, se cacher allait de pair aussi avec se cacher de la face de Dieu, là, parce qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience que d'être dans la présence de Dieu, ça devenait difficile. Puis, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Qu'est-ce qu'on peut déduire même de l'intervention de Dieu au verset 21? Quelqu'un d'autre peut nous lire verset 21? Ouais, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ici? Du fait que Dieu leur a fait des habits de peau. C'est vrai, ça on le souligne souvent, mais c'est une vérité. Il a fallu qu'un animal meure pour que la peau soit prise. Donc, il y a eu comme un premier sacrifice qui est sous-entendu. Et pourquoi Dieu leur a fait des habits? Ils s'étaient déjà fait des habits de feuilles, Adam et Ève. Oui, et pour bien couvrir la nudité, parce que juste des feuilles. Donc, il semble que les habits qu'ils s'étaient faits eux-mêmes, ce n'était pas adéquat. Satisfaisant. Donc Dieu, on peut voir que c'est une action de miséricorde de la part de Dieu. Il n'était pas obligé de faire ça, mais il a pris la peine de leur faire des habits, de leur donner, pour que là, ils puissent avoir des habits adéquats pour être dans sa présence, pour couvrir leur nudité, couvrir leur honte. Donc, la solution qu'eux-mêmes avaient adoptée, là, elle était inadéquate. Dieu miséricordieux leur a donné des vêtements appropriés. Puis, comme on l'a souligné, ça a pris le sacrifice d'un animal. Ça, on le déduit, là, surtout à la lumière du reste de la Bible, mais dans le passage ici, ce n'est pas écrit. Mais on suppose qu'il y a un animal qui a été tué là, pour couvrir leur honte, qu'ils puissent être en présence de Dieu. Mais ce thème-là, de la nudité, ça parcourt toute la Bible. La nudité, c'est resté associé à la condition de faiblesse, la honte. Puis les vêtements, c'est souvent associé à la protection, à la dignité. Ce qu'on voit dans la suite du récit, même dans Genèse, c'est que même s'ils ont commencé à porter des vêtements ce jour-là, pour couvrir leur honte, pour cacher leur péché, ça n'a pas changé leur cœur. Et leur comportement continuait d'être mauvais. Les hommes pécheurs ont rempli la terre de violence et Dieu l'a détruit par le déluge. Pourtant, ils étaient tous habillés, là, ces gens-là, mais ce n'était pas suffisant. Puis après le déluge, Noé et ses descendants étaient encore portés au péché. C'est intéressant de voir la première faute qui a été commise, c'est par Noé lui-même et ensuite par son fils. On va aller lire dans Genèse 9, 19 à 23. Donc c'est intéressant ici de voir que la première faute qui a été commise après le déluge, c'est par Noé lui-même qui s'est enivré. même si le texte ne dit pas que c'était mal, mais on comprend que ce n'était pas une bonne chose. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dénudé. Donc, il a perdu le bon sens pour se souvenir que c'est honteux d'être nu. C'est intéressant que c'est la première faute qui a été commise. La réaction de ses fils, elle est partagée. Il y a Cam, qui est l'ancêtre de Canaan. Lui, il se moque de cela. On dirait qu'il prend plaisir à voir la honte, ce qui est honteux. Puis ça va caractériser une partie de la population terrestre par la suite. Dans les descendants de Noé, certains se réjouissent de ce qui est honteux. D'autres ont aussi quand même une tendance pour le péché, mais ils ne s'en réjouissent pas, puis ils recherchent plutôt la dignité. Donc, les deux autres fils de Noé, ils ont pris un manteau, ils ont couvert la nudité de leur père, puis Noé les a bénis. Plus tard, on voit que Dieu choisit Abraham et sa descendance pour être son peuple, un peuple différent des autres nations, un peuple saint, puis il leur donne sa loi. Et dans la loi donnée à Israël, il y a aussi question de la nudité. On va voir deux exemples. Le premier, c'est les sacrificateurs. Ils devaient porter des vêtements aussi sacrés, mais le texte, Dieu spécifie qu'ils devaient porter des caleçons. Ça peut sembler comique, mais pour que leur nudité ne soit jamais découverte devant Dieu. Peu importe s'ils se penchent ou s'ils sont en train de monter un obstacle, il ne fallait jamais que la nudité soit découverte devant Dieu dans l'exercice de leur fonction. Donc, ils devaient vraiment porter des caleçons de la cuisse jusqu'à la taille. C'est spécifié dans Exode 28. Vous vous souvenez aussi de certains articles dans la loi qui parlent de la nudité? Ça fait longtemps que vous avez lu à Lévitique. Hein? C'est ça. Et particulièrement de quelqu'un qui est proche dans ta famille, d'un proche parent. De ton père, de ta mère, de ta sœur, de la femme de ton père. Ouais. Il y a toute une liste de gens que tu ne dois pas découvrir la nudité. On comprend que ça sous-entend de ne pas coucher avec aussi. Là. Mais comment c'est formulé, c'est de ne pas découvrir la nudité. Donc, rien à faire de honteux parmi ceux qui sont près dans ta famille, les intimes. Rien de honteux qui porte à des péchés, même de nature sexuelle. Le thème de la nudité aussi a été utilisé au sens figuré. À cause de l'infidélité d'Israël, Dieu lui a annoncé son jugement qui comportait aussi un dénuement. Vous avez été infidèle. Si vous continuez d'être infidèle, un jour je vais vous déshabiller, je vais vous dénuder, vous allez avoir honte. C'est au sens figuré, bien sûr, là, au sens symbolique. On lit dans Jérémie 13, « Voilà ton sort, la part qui t'est mesurée par moi, oracle de l'Éternel, parce que tu m'as oublié et tu as mis ta confiance dans la fausseté, je relèverai les pans de ta robe sur ton visage afin qu'on voie ta honte. » Je vais prendre ta robe, là, je vais la remonter sur ton visage, puis on va voir ta honte. Et on comprend dans la Bible que ça, c'est un jugement sévère. Parce que d'être dénudé, ça empêche d'être dans la présence de Dieu. Donc Dieu est en train d'exprimer, je vais afficher ta honte devant tous les peuples, mais ça va de pair avec le fait qu'ils allaient être chassés loin de Jérusalem, d'Israël, du territoire d'Israël, loin de la présence de Dieu. Mais Dieu n'allait pas les abandonner totalement, il allait les ramener. Mais on voit le thème du dénuement ici. Et même l'Ancien Testament annonce que pour beaucoup d'hommes sur la terre, ceux qui ne se repentent pas, cette honte-là, cette ignominie va être éternelle. En Daniel 12, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte. Le premier sentiment là, que Adam et Ève ont ressenti quand ils ont péché, cette honte-là va envahir les hommes et l'abjection éternelle pour toujours. On aurait pu dire les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle ou la condamnation éternelle, mais là, l'expression, c'est vraiment la honte. D'être dans la honte, c'est d'être loin de Dieu, de ne pas pouvoir être dans sa présence pour toujours. Le Nouveau Testament donne le même avertissement aussi par rapport à la nudité spirituelle. On va aller lire Apocalypse 3. C'est 14 à 22. C'est une des sept lettres, celle qui est écrite à l'église de Laodicée. Quelqu'un pourrait nous la lire, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi ici l'avertissement par rapport à la nudité? Comment vous le diriez? Comment on peut résumer ça dans vos mots? Oui, c'est bon. Ouais, c'est vrai que le passage ne parle pas seulement de la nudité, là, mais une des caractéristiques, c'est que il y en a qui pensent qu'ils sont corrects devant Dieu, ils pensent qu'ils sont en règle, En réalité, ils ne savent même pas qu'ils sont, ils sont nus. Leur honte est affichée, puis Dieu la voit. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont nus, même s'ils pensent être vêtus, là? Ben, ils vont être rejetés. Ouais. On peut faire des efforts pour qu'on sauver les apparences, avoir l'air d'un enfant de Dieu, sans l'être réellement. Puis Dieu voit qu'on est nu en réalité. Et là, Jésus conseille d'acheter des vêtements. Ben, pas d'acheter, mais de, ouais, d'acheter de lui des vêtements. Même le fait d'aller à l'église. Si c'est juste aller à l'église, c'est pas... Tu restes nu. Jésus dit dans Apocalypse 16, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc, c'est lorsque Jésus va revenir nous chercher. S'il nous trouve nus, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas sauvés. D'ailleurs, c'est un autre thème, ça, qui est associé à celui des vêtements, c'est que les vêtements servent à marquer le statut d'une personne. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment physique, là. Il y a du symbolisme aussi qui commence à être utilisé dans l'Ancien Testament. Puis dans le Nouveau Testament, on voit que c'est un statut qui est spirituel. Dans la Bible, les vêtements servent à marquer l'identité d'une personne, son statut. Et le premier exemple qui vient dans le récit de Genèse, c'est celui de Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham. À deux reprises, les vêtements ont servi à le distinguer. Vous vous souvenez? Bien, on va les lire. C'est juste un extrait, chapitre 37, verset 3. Oui, ou multicolore. Donc, Jacob, ici, il est appelé Israël. Il avait 12 fils, et parmi ces 12, bien, Joseph, il avait attendu longtemps avant qu'il puisse naître là, de sa femme préférée, là, de Rachel. Donc, il l'aimait. Il a fait des vêtements pour montrer à quel point il l'aimait. Ça, ça l'a attisé la jalousie de ses frères, là, ce qui a conduit à ce qu'il soit vendu. Mais c'était clair, l'intention de Jacob, c'était de montrer, lui, c'est mon fils, là, celui que j'aime, là, c'est mon bien-aimé. Là. Il avait une tunique multicolore. Puis vous vous souvenez, Joseph, à cause de ça, ses frères l'ont haï, l'ont vendu en Égypte. Il s'est retrouvé quand même à la tête de la maison de Potiphar. Plus tard, il s'est retrouvé en prison. Et un jour, il a été ressorti de la prison. Dans Genèse 41. Quelqu'un peut nous lire versets 14 et versets 41 à 43. Merci. Et versets 41 à 43. Attends, ça, c'était verset 14, ça? Non, c'était verset 41 à 43. Ah, OK. Ben, il manque 14. C'est vrai, le thème du vêtement revient souvent dans la vie de Joseph. Mais on voit que lorsqu'il est sorti de prison, il a fallu qu'il change de vêtement pour pouvoir aller dans la cour en présence du roi, là, du pharaon. Il devait être présentable, il a fallu qu'il porte des beaux habits. Puis plus tard, le pharaon lui-même lui met des habits royaux pour que tous voient qu'il lui a donné l'autorité sur toute la nation, sur tout le royaume. Ça introduit ça, le thème de changer de vêtement aussi. On voit dans la Bible. Mais ça montrait vraiment son statut, sa condition. En Israël, les sacrificateurs devaient porter des vêtements sacrés qui servaient à les distinguer. C'est Dieu qui l'a ordonné. On voit un exemple là, dans Exode 28. Dieu dit à Moïse, « Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui du milieu des Israélites, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, et tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. » C'est vraiment spécifié, hein? Pour marquer son rang et sa dignité. « Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. » Donc, aux yeux de toute la nation, là, Aaron et ses fils devaient être distincts. Distingués, entre autres, par leurs vêtements. Ça devait être visible. Quand on lit la description de comment confectionner les vêtements d'Aaron, là, waouh, c'est vraiment en détail. C'était très, très important. Même, il devait porter des clochettes pour que, quand il est en présence de Dieu, il ne meure pas. C'est vraiment sacré. Dans le Nouveau Testament, les bons vêtements sont requis aussi pour être admis dans le royaume des cieux. On parle ici, bien sûr, au langage figuré, spirituel. Il y a une parabole que Jésus a racontée là, dans Matthieu 22. Ben, on va la lire, on a le temps. Ça prend quelqu'un qui a du souffle pour nous lire ça. Ouais, c'est sévère, hein? Mais on comprend la gravité de la faute de cet homme-là parce qu'il ne s'en va pas dans n'importe quelle activité, il ne s'en va pas prendre un café avec un ami, là. Il s'en va à des noces. Donc là, et même si les noces, ben, on n'a pas lu le début de la parabole, mais c'est un roi qui tient des noces pour son fils. C'est même des noces royales. Tu ne te présentes pas là en jeans. Donc, on comprend que l'offense est grave et la conséquence est grave. Il est jeté dehors. Puis, la manière que c'est exprimé, même, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dehors, dans les ténèbres, où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est même une expression qui est utilisée souvent pour décrire l'enfer. Donc, cette salle des noces, là, ça représente le royaume des cieux. Et la personne qui est jetée dehors, bien, c'est qu'elle n'est pas admise au royaume des cieux, donc elle s'en va en enfer. On comprend la gravité. Puis ce qui fait que la personne aurait pu mériter sa place là, c'est si elle avait eu des bons vêtements. Donc la leçon là, de cette parabole-là, c'est qu'il ne suffit pas d'être invité. Il y en a beaucoup qui sont invités. Ça prend les bons vêtements. Jésus conclut en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est quoi les bons vêtements pour pouvoir être admis dans le royaume des cieux? Bien, c'est ça. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est intéressant. Dans Galates 3, Paul s'adresse à des chrétiens qui sont sauvés. Galates 3, il dit, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Wow! Parce qu'on a cru en Jésus-Christ, on a été baptisés en Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, bien, Christ lui-même nous revêt. Fait qu'on a le parfait habit pour aller aux noces de l'agneau, là, dans le royaume des cieux. Mais c'est le seul habit qui est convenable. Il y a un code là, vestimentaire là, pour entrer dans le royaume des cieux, puis le seul habit qui est convenable, c'est Christ. Ouais, il y a un lien avec le fait de revertir Christ, là. On va revenir d'ailleurs à cet aspect-là un peu plus loin. Oui, Michel? Bien, justement, tu abordes l'aspect de l'intérieur, là. Il y a une dernière question que je voudrais poser avant qu'on quitte le sujet de marquer le statut. Les vêtements servent à marquer le statut d'une personne. Est-ce qu'il doit y avoir dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église de la Nouvelle Alliance, là, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il doit y avoir des prêtres qui portent des vêtements distincts? Vous pensez que non? Pourquoi? Non? Mais pourquoi il ne doit pas y avoir des prêtres qui portent des vêtements distincts? Ça existait dans l'Ancien Testament. Oui, tous égaux. Oui, c'est ça. Celui qui est distinct, en fait, c'est Jésus. Et nous tous dans l'Église, ben, je vais vous laisser continuer à répondre. Culturel? Ah oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il doit y avoir dans l'Église comme le clergé par rapport aux laïcs? Le clergé doit porter des habits spéciaux, là. Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect culturel dans nos églises. C'est vrai que la Bible enseigne que dans l'Église, il y a les anciens, les pasteurs, que l'Assemblée doit une forme de soumission, d'honneur pour les pasteurs. Puis une manière pour une Assemblée d'honorer leur pasteur, c'est de faire en sorte qu'ils soient habillés d'une manière distincte. Mais est-ce que ça a rapport avec la prêtrise? Est-ce que c'est parce que les pasteurs sont comme les prêtres? OK. Oui, puis quand il est question de distinction de vêtements, c'est pour avertir, au contraire. C'est pas pour prescrire qu'il doit y en avoir, c'est pour nous l'avertir. Donc, ouais. Mais on va donner l'exemple ici. Donc, premièrement, non, il y a seulement Jésus qui est distinct, mais nous, en fait, nous sommes tous prêtres. Ça n'existe plus, ça, la classe des prêtres, puis le reste, c'est des laïcs, là. Tous les chrétiens, tous les croyants sont prêtres et intercèdent les uns pour les autres. Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père, Apocalypse. Puis habituellement, Jésus met en garde que porter des vêtements spéciaux pour montrer sa spiritualité, souvent, là, habituellement, ça relève de l'hypocrisie. C'est qu'on tient sur l'apparence extérieure pour afficher qu'on est spirituel. qu'on est à un rang plus élevé de sainteté. Le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne que c'est plutôt ce qui est dans le cœur. On adore Dieu en esprit et en vérité, pas par des choses extérieures. Donc, ce qui était dans l'Ancien Testament, qui était visible à l'œil, qui était extérieur, c'était un symbolisme. C'était un type qui s'accomplit en Christ maintenant. Et dans l'Église, on n'a plus besoin de cela. C'était une ombre de la réalité. La réalité, elle est spirituelle, elle est intérieure. Elle va se voir extérieurement, oui, mais par notre comportement, pas par nos habits. Jésus donne un avertissement dans Matthieu 23. Quelqu'un pourrait nous lire cela? Ah, c'est pas bien loin. C'est 1 à 11. Puis il dit ailleurs qu'ils aiment porter de longues robes. Donc, ils aiment que leur habit, leur phylactère, les franges de leurs vêtements, ils les agrandissent vraiment pour être différents, être distincts de la population. Jésus dit, il ne faut pas que ce soit comme ça parmi vous. Vous êtes tous frères. Personne ne doit être appelé père, encore moins le Saint-Père. Donc, ce qui marque notre statut maintenant, c'est nos vêtements spirituels. Ça va se voir, c'est sûr. Le fruit de l'esprit est visible par notre comportement. Et c'est vrai que notre style d'habillement peut aussi révéler un trait de caractère. Si on vient avec parmi nos frères tout en vêtements déchirés, tout sale, ce que ça envoie comme message, c'est qu'on a peu d'égard pour nos frères et sœurs. Si je porte un veston, c'est pas juste parce que j'aime ça, c'est par égard pour l'assemblée. On s'adapte à ce qui est convenable dans un contexte ou un autre. Ça peut être différent dans un autre contexte, mais on s'habille pas seulement pour soi-même, on s'habille pour nos frères et sœurs, puis on essaie que ça soit convenable, mais en s'efforçant de rejeter l'orgueil et l'hypocrisie. C'est là le défi. Ça amène l'autre sujet, que les vêtements révèlent le choix d'un style de vie. Dans la Bible, l'expression « se revêtir », on a commencé à en parler tantôt, c'est utilisé pour parler du style de vie qu'on choisit. Déjà, c'était utilisé dans l'Ancien Testament au sens figuré. Job dit dans Job 29, « Je me revêtais de la justice, elle me revêtait, j'avais mon droit pour manteau et pour turban. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il se revêtait de la justice. Il pratiquait la justice. Donc, il s'efforçait d'être juste, puis de faire justice à ceux qui venaient le voir. Il trouvait important le droit. Donc, c'était son style de vie. Il n'était pas dans l'injustice, la malhonnêteté. Il était intègre. Pour les chrétiens, on dit tantôt qu'on a été revêtu de Christ, mais le modèle à suivre, c'est Jésus, dans le style de vie. Philippiens 2, Paul dit que Jésus, avant de venir sur terre, il avait la dignité de Dieu, la condition de Dieu, dans la gloire, dans la puissance. Mais il s'est dépouillé. C'est un synonyme de se dévêtir. Il s'est dépouillé de sa gloire qu'il avait dans les cieux pour venir sur terre. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc, si on veut faire comme Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est quoi le modèle à suivre? Ce n'est pas nécessairement qu'on doit être exécuté, qu'on doit être un martyr. Ça peut arriver. Si on parle de style de vie, c'est quoi? Paul dit qu'on doit avoir en nous la pensée de Christ. Si on pense comme Christ, quel style de vie qu'on va adopter? Pardon? Oui, la sienne, l'humilité, c'est ça. Pierre 5:5 dit, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité. » Ça caractérise un vrai chrétien. Un chrétien qui dit s'être converti et que dans sa vie, on ne voit pas une once d'humilité. Il reste orgueilleux. On dirait qu'il n'a jamais plié le genou devant Dieu. C'est pas un bon signe. Un premier signe d'une conversion, d'une repentance, c'est l'humilité. Mais on fait le choix de s'en revêtir. C'est un paradoxe dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Paradoxalement, les chrétiens ont été revêtus de Christ. Christ leur a mis sur eux les bons vêtements pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux. C'est lui-même qui couvre les chrétiens. Mais les chrétiens, même s'ils sont revêtus de Christ, on doit faire le choix continuellement de se revêtir de Christ. C'est un paradoxe, là, mais c'est deux vérités qui sont présentes dans le Nouveau Testament. Notre statut a déjà été changé devant Dieu, mais on doit faire le choix d'adopter un style de vie qui est conforme à ce statut-là. On doit continuellement revêtir Christ, y penser, si possible, à chaque jour. Qu'est-ce que ça implique? De quoi est-ce qu'on doit se dévêtir? Parce qu'il est question ici de changer de vêtements. On ne peut pas juste mettre d'autres vêtements par-dessus, là. Donc, on enlève les vêtements pas bons, puis on en met des nouveaux. Oui, Jean? Oui, donc il est question d'un changement de comportement, d'attitude. Il y a trois passages, notre frère nous mentionnait tantôt Éphésiens 4. On va lire des extraits de ces trois passages-là, qui parlent de se revêtir. Ils sont à part. C'est sûr qu'il y a l'aspect culturel, comme disait notre frère, mais il y a des bonnes choses dans la culture, mais il y a des mauvaises choses aussi. Hein. Parfois, il faut faire du ménage. Dans certaines églises, le pasteur, il n'est pas là pour les chants. Là. Il vient seulement quand c'est le temps de la prédication. Il entre, il y a son porteur de Bible qui le suit. Il est vraiment à part du peuple. Mais ça reprend l'idée du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Mais ça ne devrait plus exister dans le contexte de l'Église. Bon, quelqu'un peut nous lire Romains 13, 14, s'il vous plaît. Ouh! Donc, il faut comme se dévêtir de ça. Hein? Si on revêt Christ, il faut enlever le mauvais vêtement là, qui est de se soucier de la chair, les mauvais désirs, les mauvaises convoitises. Là, on pourrait citer plusieurs exemples. Les chrétiens peuvent... Bien, Satan peut semer l'idée là, que c'est des besoins physiques ou c'est des désirs naturels, puis c'est normal de les satisfaire, mais s'il dit vraiment si tu veux revêtir Christ, il faut que tu arrêtes de te soucier de ça. Là. Bien, on parle ici des mauvais désirs, des désirs qui nous poussent à pécher, à l'abus, qui nous éloignent de Dieu. Il y a plus d'exemples qui sont donnés dans d'autres passages. Oui, c'est ça, mais c'est les mauvaises œuvres. Le verset précédent, il disait dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres, des mauvaises actions. Donc, revêtir Christ, ça va en parallèle avec se dépouiller, se dévêtir des mauvaises œuvres pour faire de bonnes œuvres. Éphésiens 4, 21 à 24. Oui, donc, de quoi devons-nous nous dévêtir ici? Oui, le vieil homme. Ce qui est naturel, ce qui est facile. Donc, si on se laisse aller et on ne prend pas garde, là, comme le naturel revient au galop, on dit. Bon, mais ce qui est naturel, là, on va aller là-dedans, on a une mauvaise tendance, ça, on doit le rejeter. Donc, faire un effort constant pour rejeter cette vieille tendance-là, pour revêtir Christ qui nous a créés dans une nature nouvelle, selon Dieu. Une justice, une sainteté que produit la vérité. Ça fait penser à Adam et Ève là, qui se sont fabriqués des vêtements en feuilles. C'était leur propre solution, leur propre justice, on peut dire. C'était pas convenable. C'est Dieu qui leur a donné les bons vêtements, les habits de peau. Donc, si on fait des actions pour se sentir juste ou pour donner l'apparence qu'on est juste, si c'est pas la justice de Dieu, ben, ça vaut rien. Ça demeure des œuvres des ténèbres, des mauvaises œuvres. Un troisième passage, c'est Colossiens 3. Merci. La charité, ou on peut dire l'amour, se revêtir de l'amour. Wow! Donc ici, Paul, il rentre dans des exemples précis. Hein? Des mauvaises choses qu'on peut faire, des mauvaises choses qu'on peut dire, les querelles, l'animosité, le mensonge, des mauvaises choses qu'on doit rajouter, s'en dépouiller, pour revêtir l'amour, qui inclut la patience, la bonté, l'humilité, la douceur, la vérité. Donc, il s'agit vraiment d'adopter un comportement. Il nous reste un dernier sujet concernant les vêtements, c'est quel est notre état dans l'éternité. On l'a déjà abordé, mais on va voir que les vêtements servent à décrire aussi l'état final, qui est éternel. Et ce qui Déjà, ce qui nous montre l'état final, c'est Jésus lui-même, après avoir souffert, il est ressuscité dans un corps glorifié, il a été élevé dans les cieux, élevé dans la gloire. On lit dans Apocalypse 1, je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est Jésus. Il était vêtu d'une longue robe. Donc, contrairement aux habits ordinaires, sa robe était longue. Donc, je ne sais pas quelle longueur les gens avaient d'une robe habituellement, mais quand il s'agit d'une longue robe, elle devait aller jusqu'à terre, là. Longue robe, puis il portait une ceinture d'or sur la poitrine. Vraiment comme des vêtements honorifiques, là, glorieux. Dans Apocalypse 19, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau. Donc, par-dessus ses vêtements, là, quand il vient pour le jugement, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça, c'est pour Jésus qui est déjà dans la gloire. Les chrétiens, eux, démontrent dans leur vie sur la terre qui sont les vrais des faux chrétiens, si on peut dire. Les vrais chrétiens le démontrent par leur persévérance. Et c'est décrit par un langage, encore une fois, des vêtements. Apocalypse 3, je vais vous lire ça. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père, devant les anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, Jésus annonce que ceux qui gardent leurs vêtements propres, qui ne les souillent pas, un jour, il y a des vêtements blancs qui vont leur être mis. Des vêtements éternels et dans cette ils vont être comme dans la gloire de Jésus, les vêtements glorieux. Puis chapitre 7, je ne sais pas si quelqu'un l'a, verset 9 à 14. Donc ici, tout dépendant de notre position, il existe différentes interprétations de ce passage-là, mais ce qui est important de voir, c'est que même les chrétiens qui souffrent, là, qui sont persécutés, qui sont humiliés, mais un jour, lorsqu'ils, après leur vie sur cette terre, lorsqu'ils parviennent dans les cieux, là, ils sont consolés, ils sont glorifiés, ils sont honorés par des vêtements blancs. Et ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont persévéré. Puis pourquoi ils ont persévéré? Parce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus. Ils ont lavé leur robe dans le sang de Christ, dans le sang de Jésus. Mais à la fin, ils sont récompensés. Ils portent des robes blanches et ils louent le Seigneur. Donc les vrais chrétiens lavent leurs vêtements pour s'approcher de Dieu. Je peux penser dans Exode 19, là, quand Dieu est sur la montagne, puis il dit à son peuple de s'approcher parce qu'il va donner la loi. Mais ils doivent tous laver leurs vêtements avant de venir. C'est important pour être dans la présence de Dieu. Apocalypse 22, donc dans le dernier chapitre de la Bible, Jésus dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et le seul moyen de laver notre robe, c'est Christ. C'est de revêtir Christ. Paul donne un détail supplémentaire, on va conclure là-dessus. pour pouvoir habiter sur la nouvelle terre pour l'éternité. Tantôt, on voyait qu'en nous, il y a l'ancienne tendance, là, le vieil homme. On a été recréé, on a le nouvel homme, mais le vieil homme est encore là. Et ça se voit dans le fait que notre chair est encore corruptible. On est mortel, on a encore des mauvais désirs. Mais on doit, pour être apte, propre à habiter la nouvelle terre, être transformé. C'est encore décrit dans un langage de revêtir les bons vêtements. Dans 1 Corinthiens 15, nous ne mourrons pas tous, parce qu'un jour Christ va revenir, puis il y a certains d'entre nous qui vont être encore vivants pour le voir arriver, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc la corruptibilité, là, va être enlevée pour revêtir l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au retour de Christ, enfin, la transformation va être achevée. Tout ce qui appartient au vieil homme, à la vieille création, va être complètement dépouillé, enlevé. Donc, on aura des corps spirituels, immortels, incorruptibles, purs. En conclusion, on voit que tout cela, là, tout le thème des vêtements, ça pointe à Jésus. C'est Jésus qui accomplit tout cela. Jésus nous sauve en nous procurant des vêtements qui couvrent notre nudité, notre honte. Sinon, on restera dans la honte. Sans Christ, on aurait beau se fabriquer toutes sortes de vêtements de feuilles, ça reste inadéquat. Et ce qui nous attendrait, c'est la honte éternelle, l'abjection éternelle, comme on lisait dans Daniel. Mais Christ lui enlève notre nudité, il la couvre, il enlève notre honte pour toujours. Des vêtements qui font de nous des enfants de Dieu. Comme Paul dit dans Galates, vous êtes tous fils de Dieu parce que vous avez cru en Jésus, vous avez été baptisés en Christ. A été revêtu de Christ. Des vêtements qui sont caractérisés par l'humilité, l'amour, la justice, la vérité, les œuvres de lumière. Donc déjà, pendant notre vie sur terre, on devrait voir ces vêtements-là par notre comportement. Et des vêtements que Jésus nous procure qui, un jour, nous rendront purs, incorruptibles, et glorieux avec Christ. Amen. Et on va prier pour conclure. Bien, merci Seigneur Dieu pour ta parole qui est un grand encouragement pour nous. Tu ne nous laisses pas dans notre misère, dans notre honte. Tu ne nous laisses pas essayer de trouver une solution, nous débrouiller tout seul pour nous fabriquer des vêtements de fausse justice, de propre justice et nous laisser dans la misère. Dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu nous as pourvu les bons vêtements. Les seuls bons vêtements, c'est Christ lui-même qui est mort pour nous. Merci pour ce grand amour, cette grâce infinie. Nous prions, Seigneur, qu'on n'oublie pas cette vérité, que nous avons été recouverts, revêtus de Christ et qu'à chaque jour, nous prenions l'habitude, la bonne habitude de nous souvenir de revêtir Christ, de revêtir l'amour, de revêtir l'humilité, revêtir la justice, la vérité, de rejeter ce qui est mal. Fais en sorte, Seigneur, qu'on ne tombe pas dans l'hypocrisie, de vouloir paraître comme de bons chrétiens, et qu'en réalité, dans notre vie, dans notre cœur, on soit tout croche. Permets que l'image qu'on projette soit réelle. Donne-nous l'humilité de cela, puis qu'on puisse avancer ensemble, les frères et sœurs, vers la fin, vers l'éternité. Merci pour cette espérance qu'un jour ton Fils Jésus reviendra. Permet qu'ils puissent trouver un grand nombre de chrétiens vêtus et non nus. Permet que ce nombre augmente de jour en jour. Permet de nouvelles conversions. Et permet qu'on ne tombe pas, Seigneur, qu'on soit vêtus lorsque ton Fils reviendra. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Te demandons au nom de Jésus. Amen.